Bonjour et bienvenue sur l'Innovation by Ingérop, une série de podcasts proposés par le groupe d'ingénierie et de conseil Ingérop. Le groupe qui œuvre sur les enjeux majeurs pour bâtir dès à présent le monde de demain est présent en France et à l'international. Son développement constant s'appuie sur son indépendance actionnariale, son expertise technique et sa capacité d'innovation. C'est précisément sur l'innovation que le groupe souhaite mettre l'accent à travers cette série pour partager sa vision de l'innovation et les multiples facettes qu'elle prend au sein du groupe. Bonjour et bienvenue sur notre podcast L'innovation by Ingérop. Je suis Sophie Rapatel, directrice de la communication du groupe Ingérop. Nous accueillons aujourd'hui deux collaborateurs d'Arcora, filiale du groupe. Emmanuel Viglino, directeur de la filiale, et Florent Capoun, qui est directeur des études. Bonjour Emmanuel, bonjour Florent.
Bonjour Sophie.
Bonjour Sophie.
Alors, après avoir exploré l'innovation au sein du groupe, nous voulions faire un focus sur Arcora, qui de longue date inscrit l'innovation dans son quotidien. Emmanuel, justement, est-ce que tu pourrais nous présenter Arcora et puis surtout nous dire comment l'innovation s'incarne au quotidien chez Arcora?
Arcora est un bureau d'ingénierie qui pratique une ingénierie sur des projets à haute valeur ajoutée depuis 1976, date de sa fondation. Ce qui est assez marquant dans ces premières années d'exercice de l'ingénierie, c'est que lorsqu'un maître d'ouvrage avait recours à une ingénierie spécialisée comme la nôtre, ce recours portait sur un besoin très marqué justement d'une innovation embarquée dans le projet, si je puis dire. C'est le cas, par exemple, de la couverture du stade dépliable du stade de Montréal qui a été conçu par Corentin Kefelec aux côtés de Roger Théaibert à l'époque. Donc une grande couverture en membrane textile. C'est le cas sur nombre de structures déployables en membrane que les équipes d'Arcora ont conçues dans les premières années d'exercice. Et puis c'est évidemment aussi le cas d'ouvrages exceptionnels que tout le monde a en mémoire. Le premier Zénith de Paris avec Chexey Morel, la porte océane de la gare Montparnasse, cette grande façade vitrée reprise sur des toutes petites agrafes. Donc ce qu'il faut noter, c'est vraiment que ce recours était un recours volontaire pour générer une innovation dans le projet. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on s'est donc inscrit dans cette dynamique. Il faut dire aussi qu'à cette époque, le temps du projet était un peu différent du temps des projets que nous avons maintenant.
C'était un temps plus long ?
C'était un temps beaucoup plus long. Mm-hmm. On avait le temps de produire une ingénierie d'artisan qui prenait le temps et qui prenait donc le temps d'inventer au sein du projet et pour le projet.
D'accord.
Évidemment, il y a eu une accélération. Mm-hmm. Nous vivons une époque où les choses vont plus vite, les projets vont plus vite.
Mm-hmm.
Et il faut dire aussi que là où on se permettait peut-être certaines envolées, certaines prises de risques il y a 40 ans, on vise maintenant des projets sécures, dérisqués, comme on dit et comme on le partage avec nos clients. Et c'est évidemment l'une de nos préoccupations, c'est avoir une gestion de risque et donc de minimiser ces risques embarqués dans le projet. Donc, je ne dis pas que les concepts se sont assagis, mais par contre, il est peut-être plus difficile maintenant qu'à une certaine époque d'innover directement au sein du projet à travers des envolées techniques qu'on a le temps de tester et le temps d'éprouver dans la phase de conception. C'est vrai que cette mutation donc dans la nature même des projets, dans la façon de les produire, elle nous a conduit à une réflexion il y a quelques années sur la façon de continuer à pouvoir innover. Mmh. En faisant peut-être un pas de côté. D'où le pas de côté, on a entendu dans l'un des podcasts précédents de Stéphanie Valran la différence que Stéphanie
donnait entre illustrait. L'innovation et la R&D.
Exactement, illustrer mmh. entre l'innovation et la R&D, c'est exactement en fait notre idée, c'est qu'on s'est dit, pour être innovant dans l'avenir, il faudra certainement produire une recherche dans un temps qui est un temps déconnecté du temps des projets, plus long, ce qui n'empêche pas en fait de produire notre recherche elle-même en mode projet, mais dans un temps qui est un temps allongé. Et donc, dans ce sens, nous avons installé dans notre fonctionnement un lab interne, donc qui est le lab d'Arcora, mm-hmm. qui a maintenant 6 ans d'existence, qui est structuré autour d'un pilotage qui est réalisé par notre ingénieur docteur de l'équipe Philippe Ancard, Et ce pilotage, ensuite, permet de planifier et d'organiser la production de lignes de recherche et le suivi de lignes de recherche autour des sujets que nous décelons en amont et ensuite que nous poussons à travers une recherche volontariste. Il faut dire que dans ce sens, on a évidemment été aidé et accéléré par la direction scientifique et technique du groupe Ingérop, notamment par l'occasion qui nous a été donnée il y a 6 ans, justement avec Philippe Pancard, d'entamer une thèse CIFRE qui portait sur la mise en œuvre d'alliages et mémoires de forme comme actionneurs de protection solaire de bâtiments, qui récemment s'est traduite par l'inauguration d'un démonstrateur qui lui-même vient illustrer et traduire l'invention et le brevetage que nous avons fait avec l'école des ponts et chaussées. Donc, en synthèse, nous avons maintenant un lab organisé, ce lab a une quinzaine de lignes de recherche, dont certaines très actives. Ce lab est évidemment poussé par la direction scientifique et technique du groupe, et il produit maintenant une recherche vraiment puissante, notamment autour des sujets de décarbonation, qui est évidemment notre préoccupation à tous et qui s'inscrit dans l'axe numéro 1 de l'ambition Ingérop 2025.
Alors justement, Florent, est-ce que tu peux nous détailler, s'il te plaît, les axes R&D sur lesquels travaille Arcora?
Bien sûr, alors je vais pas tous les détailler, on va en cibler quelques-uns. Je commencerai en fait par les deux projets les plus importants au niveau du groupe, qui sont ceux reconnus au travers de la démarche d'incubation, Incube. Le premier étant Green Shell, qui est un projet de végétalisation d'enveloppe se développant sur la base de structures complexes déployables. Et ce projet, nous le menons en partenariat avec la start-up Urban Canopée depuis donc près de 2 ans. Ce projet donc est porté et largement soutenu par la DST, comme tu disais, Emmanuel. Et nous en avons un deuxième qui est très très supporté, qui est ECAL. Et je pense que nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus longuement à la suite. Je voudrais noter donc différentes lignes de recherche qui sont actives chez nous. Actives dans les dernières années, les lignes majeures. La première dont je voulais parler, c'est la façade anti-explosion. C'est une compétence très très technique du domaine des enveloppes qui n'était pas forcément une corde dans l'arc des nôtres, en tout cas.
Il faut dire aussi que c'est une corde dans l'arc de personne.
Donc, oui, c'est ça.
De personne.
Sujet très exploratoire.
Sujet qui pourtant est abordé par des ingénieries anglo-saxonnes, un peu plus que des ingénieries françaises. Donc on a voulu explorer cette thématique très technique en s'associant les services d'un PFE des ponts et chaussées, ultra pointu, qui nous a permis d'analyser en fait les capacités de reprise de déformation sous impact d'explosion des façades rideaux. Et tout ça, on l'a fait en partenariat avec la cellule de calcul complexe du département infra.
Chez Ingérop, du coup.
Chez Ingérop, tout à fait.
Qui a de longue date un savoir-faire avéré dans le domaine de la dynamique rapide, sachant qu'une thèse récente aussi a été hébergée dans le domaine, mais plutôt de la dynamique rapide associée à la construction lourde en maçonnerie.
En maçonnerie, oui.
Et donc l'idée, c'était en fait d'en avoir une déclinaison sur de la construction légère,
Les façades.
Voilà, les façades, utiliser des outils de calcul complexes.
Donc là, on vise, si on devait parler d'innovation autour de ce sujet-là, c'est vrai qu'on vise clairement un marché qui est certes assez restreint, de niche, mais un marché qui peut, au travers de l'actualité, avec les attentats qu'on a pu avoir, qui peut
Sauver
avoir
les
un
vies.
peu de portée.
Et on a l'illustration très concrète du temps dédié qu'il faut à un temps de recherche pour en fait venir en appui d'une activité et d'une innovation future dans la conception. Il est clair que de telles recherches sur plusieurs mois dans l'amélioration de codes de calcul et de process de calcul ne peut pas se faire embarquer dans le projet
Bien
si jamais un projet tombe.
Bien sûr.
Voilà, dans la même série des sujets de recherche très pointus en termes d'ingénierie, on a l'ingénierie du verre, qui est un sujet ouvert depuis un moment, On a notamment encore récemment travaillé beaucoup sur le verre structurel. Alors il faut savoir que les Eurocodes vont très prochainement se voir augmenter.
Ils vont évoluer.
Et amender.
Ouais. Amender déjà et augmenter. Alors trois Eurocodes sont en préparation, mais le premier des trois, c'est celui sur le verre structurel qui paraîtra en projet l'année prochaine. Mm-hmm. Donc dans cette optique-là, c'est vrai que nous, on explore déjà un petit peu les méthodes de calcul. Et notamment, donc, ce qu'on explore en ce moment, c'est le verre structurel pour un usage de poutre pour des verrières. On a eu l'occasion sur un projet d'être confronté à ça. Et puis notre ingénieur des ponts et chaussées, d'ailleurs, en a profité pour aller un petit peu au-delà du projet pour développer une méthode de calcul en se basant sur des méthodes internationales, plus ou moins reconnues au travers d'autres papiers de recherche dans le monde. Et lui-même a écrit une publication scientifique qu'on va prochainement publier donc sur le déversement des poutres en verre structurel et qui probablement pourra ensuite être mis en perspective avec l'Eurocode 11 qui sort l'année prochaine. Donc c'est important pour nous en tout cas de conserver bien sûr un accent fort sur l'aspect structurel, hein, parce que c'est quand même une composante forte d'Arcora. Mmh. Et puis au-delà de ça, on a des techniques qui vont plus porter sur la façade en tant que matière et sur la physique du bâtiment. Ce sont des composantes qui marquent beaucoup nos lignes de recherche. Donc, par exemple, on parlait de green shell pour la végétalisation des enveloppes. On a aussi tout récemment voulu mettre l'accent sur l'intégration du vivant dans la façade.
Alors ça veut dire quoi ça, l'intégration du vivant dans la façade ?
Alors on a...
Parce que végétalisation, moi ça me parle, mais l'intégration du vivant, un peu moins.
Alors il faut bien voir dans le contexte réglementaire actuel l'enjeu de la biodiversité, des effets d'îlots de fraîcheur et de tout ce qui nous permettra de nous adapter au changement climatique. Et à cette occasion-là, au-delà du végétal, on a effectivement des besoins de, disons, prendre en compte l'impact qu'on a sur l'environnement et donc aussi sur la faune dans les villes. Très concrètement, nous concernant au niveau des façades, ça passe beaucoup par l'avifaune, donc les oiseaux domestiques, et de quelle manière on peut, dans des façades avec une certaine épaisseur, incorporer des nichoirs.
D'accord. Voilà.
Mais des nichoirs qui vont cibler une certaine catégorie d'oiseaux, qui vont permettre de ne pas se laisser envahir par des espèces
nuisibles, comme les pigeons.
Alors les pigeons sont quand même des espèces locales, nuisibles, mais locales.
Dont à l'inverse, on essaie de se protéger parce que c'est une préoccupation de nos clients, mais nous-mêmes aussi, sur certaines façades très sculptées, on va dire, d'éviter de former nichoirs à pigeons, justement.
Voilà, ça c'est plutôt un combat. Non, mais des espèces qui viennent, des espèces exotiques qui deviennent envahissantes et donc qui empêchent le développement des espèces pour le coup locales. Donc, et c'est une ligne de recherche qui est d'ailleurs partagée assez largement aussi à travers des agences d'architecture. Je pense notamment à Chartier d'Alix qui a tout récemment fait une conférence sur le sujet et qui mène des recherches assez avancées sur le sujet. Donc on s'inscrit dans cette dynamique-là, ce sont des architectes avec qui on travaille et je pense qu'ils apprécient aussi que l'ingénierie embarquée dans les projets soit sensibilisée.
Se pose un peu les mêmes questions que...
Tout à fait.
Après, tu as une autre ligne qui est sur les techniques constructives visant à décarboner les enveloppes.
Voilà, je voudrais ouvrir tout doucement vers l'aspect carbone. Mais avant ça, vous avez parlé dans un des podcasts précédents de la terre crue, plutôt pour ses aspects structurels. Nous avons, donc quand je parlais de matière, de matière pour bâtir les façades, on a, autour de la terre crue, cherché à explorer le domaine de l'aspect hydrique, l'aspect hydrothermique de ces façades qui reviennent au goût du jour, qui reviennent parce qu'elles correspondent à des techniques vernaculaires, pour la plupart qui ont été abandonnées au profit de constructions en verre et métal, hein, faut pas se cacher. Puis là, on revient progressivement avec des architectes qui sont très attachés à ce retour à la matière, à des matières qui seraient géosourcées, donc qu'on trouve plus facilement localement. Donc on est amené à se re-questionner en fait, sur des techniques plus ou moins anciennes, Dans cette optique-là, nous, avec notre analyse du risque associée, on est amené à justement à creuser en physique du bâtiment l'aspect hygrothermique. On a exploré à la fois la technique constructive et puis l'aspect performantiel, donc par ce biais-là. Donc la terre crue de ce fait-là, mais aussi d'autres matériaux qui reviennent et qui constitueront nos façades probablement des prochaines années. On a regardé au niveau plutôt structurel les maçonneries de petits éléments, notamment la brique de terre comprimée, qui est un matériau, la BTC, comme on l'appelle, qui est un matériau que les architectes veulent utiliser. On avait beaucoup parlé parce que autour des travaux du Grand Paris, la terre est une matière qui va redevenir en grande quantité disponible et dont on aimerait en faire quelque chose. Donc il y a toute une démarche qui est déjà menée par d'autres organismes pour constituer des briques élémentaires que nous on utilisera. Et donc ces briques, après nous, il faut les mettre en musique dans des façades qui ont des besoins de performance. La terre, donc, tout ça autour de la terre, et puis aussi beaucoup sur la pierre. Mmh. La pierre, matériau géosourcé. En France, on trouve des carrières un peu partout. Les architectes ont cette tendance en ce moment de s'interroger sur le réemploi de la pierre. Enfin, réemploi au sens ré, plus loin, emploi. Et puis aussi, le réemploi, c'est vrai que c'est un des axes majeurs qu'on traite. Pour sa durabilité, pour son aspect géosourcé, voilà. La pierre porteuse en façade, que peut-elle porter? Peut-elle déjà se porter? Ce serait pas si mal. Est-elle étanche? Et puis, génère-t-elle des problèmes d'hygrothermie également? Tout ça, ce sont des sujets qu'on aborde dans le cadre de ce lab, puisque, encore une fois, on s'en sert sur les projets, mais il y a besoin d'un temps un peu plus long pour aller explorer. Tout ça, vous l'aurez compris, donc pour nous amener à réutiliser des matériaux à faible empreinte carbone. Et puis, ça nous amène naturellement.
Ça nous amène naturellement vers ECHAL. ECHAL, c'est effectivement l'un des projets qui s'est illustré dans la seconde saison d'un cube. Concrètement, il s'agit de quoi?
Alors, ECHAL est le produit d'une démarche de long terme chez Arcora qui porte sur l'analyse du cycle de vie des façades. Mm-hmm. Depuis environ 7-8 ans, notre ambition est de donner aux constructeurs les clés d'une conception bas carbone des façades, en suivant de près la réglementation et son évolution. Mmh. À ce stade de développement, ECHAL prend la forme d'un configurateur.
Alors, justement, qu'est-ce que c'est qu'un configurateur, s'il te plaît?
Alors, un configurateur, c'est un outil paramétrique d'aide à la conception, comme on concevrait sa cuisine, on pourrait dire.
Oui, oui.
Un configurateur, alors pour nous, ECHAL sera accessible en ligne. Mmh. Et il va bien sûr intégrer une représentation 3D en temps réel de la trame de façade étudiée.
Alors, j'ai cru comprendre que le configurateur calculait quelque chose, mais il calcule quoi ce configurateur?
Évidemment, oui. Sur la base de cette trame modélisée par l'utilisateur, en arrière-plan, l'outil calcule le poids carbone par mètre carré de façade. En combinant les poids carbone des matériaux et des composants embarqués dans la façade, et en les couplant à leur durée de vie. Mmh. Nous avons construit une base de données plus fine que ce que propose la base Ignès, mmh. Qui rassemble, comme vous savez, des fiches FDES génériques, c'est-à-dire qui ne s'applique pas spécialement à notre projet, alors que nous faisons principalement du prototype, mmh. et qui sont souvent trop sécuritaires. Notre outil, par sa simplicité d'utilisation, va permettre un usage très en amont sur les projets, mmh. et donc va permettre d'alimenter des arbitrages structurants avec les architectes et les maîtres d'ouvrage.
D'accord. Emmanuel, est-ce que tu peux nous donner le calendrier de ce projet ECHAL, s'il te plaît?
Alors, il y a déjà derrière nous un premier jalon, puisque ECHAL a été présenté au ZAC World of Façade, qui est un événement qui s'est tenu très récemment à la station F à Paris. C'est un événement en fait mondial, hein, puisque c'est un événement itinérant entre Asie, Amérique et Europe, des spécialistes de la façade. On a annoncé la sortie d'ECHAL prochaine lors de cet événement, donc le 24 juin. Mm-hmm. Nous avons à cette occasion fait un appel au collectif de toutes les ingénieries et tous les gens intéressés par la façade de venir bêta-testeurs de cet outil, sachant que dans sa version de base, ECHAL en fait, est mis à disposition de la profession.
Gratuitement.
De façon volontariste. Mm-hmm. Voilà, c'est un geste volontaire aussi parce que on dit nous souhaitons faire ce geste et se mettre au service de la, non seulement de la profession, mais aussi du mouvement fort qui est entamé autour de la décarbonation. Donc le bêta-test démarre à partir de la semaine prochaine et il aura lieu jusqu'à septembre. Et puis en septembre, au salon CIPCA, auquel nous participerons autour du 20 septembre, ECAL sera présenté dans sa version définitive remise à disposition pour la profession.
D'accord. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces explications. Merci à nos auditeurs d'avoir écouté ce podcast de la série L'innovation by Ingérop, consacré cette fois-ci à Arcora, filiale du groupe Ingérop. Emmanuel et Florent nous ont expliqué comment l'innovation est devenue une véritable signature de la filiale. Le prochain épisode viendra conclure cette série et nous aurons le plaisir de recevoir Yves Metz, président du groupe Ingérop. À très vite.